Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast L'Adepte c'est vous. Nous sommes en compagnie de Christelle.
Bonjour.
Et de Basile.
Bonjour.
Alors, pour contextualiser, vous êtes tous les deux chargés de mener différentes enquêtes pour l'Adepte. Nous allons donc, vous l'aurez compris, parler de sport et plus particulièrement du sport chez les personnes en situation de handicap, puisqu'apparemment c'était des données qui vous manquaient.
Effectivement, donc depuis quelques années, on s'intéresse à des publics spécifiques. On s'est intéressé à la pratique sportive chez les femmes. On s'est intéressé également à la pratique sportive chez les étudiants du supérieur. Et là, on avait envie d'avoir plus de données sur la pratique sportive chez les personnes en situation de handicap.
Et quand on dit handicap, on parle de l'handicap sous toutes ses formes. On parle du handicap moteur, qui était le handicap le plus cité d'ailleurs dans l'enquête. On avait le handicap sensoriel, le handicap mental. Mais on a aussi des handicaps moins visibles, comme le handicap psychique, par exemple,
ah oui, c'est vrai, ouais.
Qui concerne les troubles qui sont liés à des pathologies mentales, comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, par exemple. Et les handicaps cognitifs, qui comprennent tous les troubles 10, les multidys, dyspraxiques, dyslexiques, etc. Et aussi l'autisme, par exemple.
Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, on oublie que certains troubles rendent difficile la gestion des bruits, les contacts physiques, la fatigue, le stress. Et donc, ça peut être évidemment le sport une formidable source d'épanouissement, mais effectivement, ça peut aussi créer son lot d'angoisse. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que tous ces aspects ont été abordés dans votre enquête? Et quel est le public cible que vous avez interrogé?
Alors, on a essayé de brasser le plus large possible. Dans notre enquête, on a quand même plus de femmes que d'hommes en général. Je vous l'ai dit juste avant, le handicap le plus souvent cité, c'est le handicap moteur. Par contre, dans les handicaps moteurs, je pensais que ça allait être les paraplégiques, par exemple, qui allaient arriver en premier. Ici, on retrouve plutôt des personnes qui ont des troubles de l'équilibre, de la coordination.
Ah oui, donc ils savent marcher, donc.
C'est ça, exactement. On leur a posé aussi des questions concernant leur situation de vie, leur environnement. La majorité des femmes, par exemple, se retrouvent dans des situations de vie familiales, plutôt de manière autonome, alors que les hommes ont plus souvent un handicap mental et pour près de la moitié, ils vivent en institution. Et
ah oui.
Ça va être intéressant d'analyser plus tard.
Et du coup, les enfants ?
Ils ont eu aussi un questionnaire qui leur a été destiné, mais c'est très compliqué. Ça fera partie d'une analyse complètement séparée. Donc ici, on parle bien uniquement des adultes.
J'ai envie aussi de quand même préciser, c'est important, qu'on ne va pas savoir aborder tous les résultats de l'enquête. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est les personnes en situation de handicap, est-ce qu'elles font du sport?
Alors oui, mais il faut nuancer et rester prudent. D'après notre enquête, environ 6 personnes sur 10 déclarent pratiquer une activité sportive. Mais comme vous vous en doutez, nous à l'ADEPS, notre public, ce sont des gens qui font déjà du sport.
Mmh.
On a essayé d'élargir justement en intégrant dans notre groupe de travail d'autres institutions. Par exemple la VIC, Sciences-Sano, Phare, COCOF à Bruxelles.
Oui, c'est des partenaires qui n'ont pas forcément un public sportif, c'est ça que tu veux dire.
Exactement. Néanmoins, on avait aussi inclus nos deux fédérations sportives, qu'est la Ligue Handisport Francophone et Sportea, qui ont un public éminemment sportif.
C'est ça, oui. Et alors, que révèle l'enquête par rapport à ça? Ils font quoi comme sport?
Alors, essentiellement, ils font plutôt de la promenade ou du jogging, de la natation ou tout ce qui est activité de la forme, c'est-à-dire renforcement musculaire, stretching, yoga. Et cette pratique, elle est plutôt libre, donc ils font ça en dehors des clubs organisés. Et on remarque déjà une petite différence par rapport à notre échantillon initial. Donc on vous a dit qu'il y avait plutôt des femmes qui avaient répondu à notre enquête.
C'est ça.
Mais on remarque que dans la part des sportifs, ce sont plutôt des hommes qui se déclarent comme sportifs. Alors attention, c'est pas parce qu'on se déclare sportif que nous, on va vous considérer comme tel. Puisque si vous faites par exemple 30 minutes d'activité physique et sportive dans votre semaine, on va considérer que ce n'est pas assez pour se considérer comme tel.
Oui, c'est vrai. 30 minutes par semaine, ce n'est pas assez en fait. On s'est basé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui préconise, elle, 150 à 300 minutes d'activité modérée par semaine, ce qui correspond plus ou moins à 30 minutes par jour, qu'on peut découper aussi en 3 fois 10 minutes par jour. Et donc, c'est à partir de ce seuil qu'il y a des bénéfices sur la santé. Donc, l'activité physique, elle prévient de nombreuses maladies chroniques, comme par exemple le diabète. Elle lutte aussi contre les maladies cardiovasculaire. Elle renforce le cœur, elle renforce les muscles, les os. Elle permet aussi de lutter notamment contre la dépression. Donc vraiment, nous, ce qu'on aimerait rappeler, l'objectif, c'est de bouger. C'est très important et d'être le moins sédentaire possible.
Oui, donc ça, effectivement, on le dit souvent, hein, il faut bouger, même si on est en télétravail, ça nous empêche pas de nous lever. Ça peut être en faisant 10 minutes de marche autour de son petit pâté de maison pendant la pause, en allant étendre son linge à l'extérieur et tout simplement en passant un petit coup d'aspirateur. C'est ça aussi l'activité physique.
Oui, tout à fait, tu as raison. L'activité physique, ce n'est pas uniquement le sport. Ça peut aussi inclure les déplacements actifs, mais aussi tout ce qu'on fait à la maison, les activités quotidiennes domestiques et ce qu'on fait au travail. Et là, on a posé la question aux répondants, justement, de savoir est-ce qu'ils respectent les 150 à 300 minutes hebdomadaires au travers de ces quatre thématiques. Donc, l'activité physique lors des déplacements, ça peut être à vélo, la marche à pied, la chaise roulante sans assistante. Ici, pour les personnes en situation de handicap, à la maison, au travail et au niveau du sport. Et là, on remarque qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui respecte les recommandations de l'OMS. Donc, il reste vraiment une vraie marge de progression.
Mais quand je vous entends, même si on a abordé effectivement le sujet qu'il n'y avait pas que des personnes en chaise roulante, quels sont les freins en fait qui les empêchent vraiment de bouger? Parce que bouger, ce n'est pas forcément uniquement aller à la salle de sport, c'est aussi se déplacer. Donc, c'est quoi les freins?
Sans surprise, les répondants déclarent que les problèmes de santé sont le frein principal. C'est un peu logique, c'est un public qui est beaucoup plus à risque que la population générale. Ouais. Mais on retrouve également la fatigue qui est fortement présente dans les freins mentionnés. Et ça, c'est beaucoup plus classique comme type de frein qu'on retrouve dans nos enquêtes. On retrouve également le manque d'offres d'activité physique adaptées. Et ça, on espère avoir un peu plus d'impact dessus. Par contre, ce manque d'offres d'activité physique adaptée est parfois lié au fait de ne pas connaître l'offre. Donc parfois, la personne va avoir à disposition proche de chez lui quelque chose qui lui convient et qu'il aurait envie de faire, mais l'information n'a pas bien circulé. On retrouve également, et ça va varier un petit peu en fonction du profil, et je vous invite à regarder plus en détail dans le rapport, mais le coût trop élevé de la pratique est parfois mentionné, ou alors le manque d'accessibilité aux infrastructures sportives.
Donc on dit souvent que le sport, c'est la santé. Mais quelles sont les motivations de ces personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qui les incite à se lever le matin et à se dire « Allez, hop, je me mets en route ». Quelle est la première source de motivation?
Alors c'est là où c'est paradoxal, parce que comme Basile l'expliquait, le premier frein, et ça c'est sans surprise, les problèmes de santé liés au handicap. Mmh. Et la première motivation, c'est justement l'amélioration de la santé. Donc on voit vraiment qu'ils ont des problèmes liés au handicap, c'est vraiment un frein pour eux. Et en même temps, ils veulent pratiquer pour justement améliorer leur santé. En deuxième, on retrouve le plaisir. Et puis alors la dimension sociale en troisième, avec la rencontre des autres. Ces motivations, elles varient un peu selon le genre et le handicap. On remarque que chez les femmes en situation de handicap, la santé est plus importante que pour les hommes, même si elle arrive en première position pour les deux. Elle est bien plus élevée. En deuxième, on retrouve le plaisir. Et là, ce sont davantage chez les hommes qu'on le retrouve. Et au niveau des handicaps, on voit que pour le handicap intellectuel, on retrouve d'abord le plaisir en premier.
Donc, on a parlé des freins, on a parlé de la motivation. Mais maintenant, vous êtes quand même l'administration générale du sport, l'ADEPS. Est-ce que vous avez des recommandations à émettre?
Alors, sur les deux premiers freins que Basile a expliqués, donc les problèmes de santé liés au handicap et la fatigue, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre proprement parlée. Par contre, sur le manque de visibilité, par exemple sur la méconnaissance, sur le manque d'offres, là, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion, essayer de voir dans quelle mesure on peut augmenter cette visibilité de l'offre existante, peut-être aussi voir comment améliorer ou augmenter la compétence des encadrants.
C'est ça. Et accroître la sensibilisation également.
Tout à fait, pour que les personnes en situation de handicap se sentent aussi à l'aise et bien que les autres, au final, à pratiquer une activité physique et sportive.
Merci pour ces données très intéressantes. Je pense maintenant aux auditrices et aux auditeurs qui aimeraient bien en savoir plus sur votre enquête. Les résultats complets se retrouvent où?
Alors, vous retrouverez sur notre site web un rapport complet avec beaucoup plus d'éléments, de résultats, d'analyses. Vous retrouverez également une synthèse pour ceux qui ne veulent pas lire les 60 pages. Il y aura aussi des infographies et alors évidemment bah, ce podcast.
Et au cas où les gens ne connaissent pas notre site web, c'est www.sport-adeps.be. Rendez-vous donc sur le site internet de l'ADEPS www.sport-adeps.be, également sur les réseaux sociaux, ADEPS officiel. Et s'il y a un dernier message à faire passer aujourd'hui, ce serait lequel ?
On a fait cette enquête pour rendre un peu plus visible ce public parfois mis de côté ou invisibilisé. On espère que ça vous a intéressé et que vous allez en parler autour de vous. Et donc, en une phrase, si vous n'avez pas de contre-indication médicale, faites de l'activité physique. C'est des petits réflexes du quotidien à avoir. Prendre les marches de l'escalier au lieu de prendre l'escalator. Éviter d'être trop longtemps statique. Vous verrez, ça vous fera un bien fou et ça vous permettra d'avoir une meilleure qualité de vie.
Et ça, c'est top. Merci à tous les deux.
Merci.